Bonjour, je suis Camille et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast La Voix des Invisibles. Ici, on parle de ceux que l'on n'entend pas. Ici, on met en mots des parcours de travailleurs sociaux. Et ici, en toute simplicité, je leur donne la parole pour qu'ils puissent se raconter, nous raconter, par où ils ont commencé, par quoi ils sont passés, leur quotidien de travail, là ou les situations marquantes qu'ils ont accompagnées, le ou les publics pour qui leur engagement est plus fort, parce que oui, on a tous nos préférences. Qu'est-ce qu'ils retiennent de toutes ces rencontres humaines, leur avis sur le travail social d'hier et celui d'aujourd'hui, et bien plus encore. J'espère que vous trouverez ces parcours aussi inspirants et enrichissants que moi. Belle écoute à vous. Dans ce nouvel épisode, c'est au tour de Julien de s'être prêté à l'exercice de se raconter. Vous savez, c'est le genre de professionnel à qui un jour on confie un foyer vide avec un seau de clé qui ouvre toutes les portes, une semaine avant l'accueil des premières personnes. Il ose essayer d'en faire un service accueillant, bienveillant et respectueux, et le pari est tenu. Je vous laisse avec lui sans plus attendre. Belle écoute. Bonjour Julien.
Bonjour Camille.
Merci d'avoir accepté mon invitation pour témoigner sur La Voix des Invisibles. On va tout de suite lever un voile et dire aux auditeurs qu'on se connaît. Donc je connais déjà un petit peu ton parcours, mais on va essayer, ou plutôt c'est un peu la charge qui me revient aujourd'hui, de tenter de t'amener à nous donner des détails sur le chemin que tu as fait pour arriver où tu en es aujourd'hui. Pour commencer, je vais te demander de te présenter, nous dire ton prénom, ta formation initiale et depuis quand tu es diplômé, en tout cas dans le social.
Bonjour, je m'appelle Julien, je suis assistant de service social depuis 2012 sur une formation que j'ai engagée à l'IRTES en 2009. J'ai avant œuvré en fait dans des sociétés de biotechnologie,
okay,
en étant technicien de recherche en laboratoire. Et puis du coup j'ai décidé en 2009 de faire une reconversion. J'avais 30 ans et voilà, aller dans l'univers du, okay, social.
Comment ça t'est venu cette idée du social?
Alors,
parce qu'on était sur l'opposé, enfin pas un opposé, mais en tout cas pas dans un milieu plus ou moins rattaché au social avant.
Alors justement, c'est, okay, ça qui m'a un peu fait choisir cette orientation. En fait, depuis que je suis tout petit, alors ça a commencé par du bénévolat, parce qu'à partir de 14 ans, j'étais bénévole à la SPA pendant 2 ans. Puis après, j'étais bénévole dans différentes associations, dont les Lato Sensu, les Restos du Cœur, etc. Enfin, toujours un peu dans le milieu associatif.
Okay.
Et avec mon métier de technicien de recherche, la société en tant que telle, je suis arrivé en tant que 10e salarié dans cette start-up.
Okay.
Et puis, elle a grossi jusqu'à atteindre 200 salariés, voilà, aux alentours de 2007-2008. Et puis la société a vécu de plein fouet en fait la crise américaine, okay, financière, ce qui a fait qu'il y a eu un gros plan de licenciement. Et du coup, à cette époque-là, j'étais dans le CE, le comité d'entreprise. Mmh. Et du coup, j'ai dû gérer pas mal de choses par rapport au licenciement, reclassement, etc. Et notamment, il y avait un jeune qui avait été embauché, qui avait une RQTH.
D'accord.
Et du coup,
est-ce qu'on peut peut-être préciser pour ceux qui ne sont pas du tout
une
du
reconnaissance
secteur,
qualité de travailleur handicapé? Je n'étais pas du secteur non plus et je l'ai découvert,
ouais,
aussi, ce que
toi,
c'était à ce moment-là.
Un peu, okay.
Oui, l'envers du décor. Et du coup, moi, j'avais absolument pas de lien avec l'univers du social. Et au gré de mes rencontres, à l'époque, j'étais donc dans l'association Resto du Cœur, où du coup, on a créé le relais médical.
Okay.
Avec des médecins, des dentistes, etc. Donc j'y allais 3 fois par semaine et c'est un relais qui n'existait pas. Et donc du coup on a créé des ponts avec l'univers médical, etc. J'ai mis en place des ateliers en fait pour faire le lien avec l'hygiène, la santé, avec les produits qui émanaient en fait des Restos du Cœur pour pouvoir faire des ateliers de cuisine, mmh, etc. Enfin voilà, j'étais dans ce domaine-là. Et donc du coup dans le CSE à gérer en fait une... voilà, la crise financière, des reclassements, des licenciements. Et à travers ça, j'ai rencontré la présidente des Restos du Cœur, avec qui j'ai pu évoquer le milieu du social.
Okay.
Voilà. Et c'est venu un peu naturellement. Elle m'a expliqué qu'il y avait des formations que je ne connaissais pas, éducateur spécialisé, assistant social. J'ai postulé en fait aux deux, éducateur spécialisé, assistant social.
D'accord.
Sans avoir beaucoup de références dans le domaine. Et puis c'est un peu par hasard que du coup j'ai été reçu au concours d'assistant service social, parce que j'ai vraiment participé au concours sans préparation, deux semaines avant la date. Voilà, j'y vais.
Ok.
Donc il y avait un écrit à l'époque, et puis après on se retrouvait sur liste d'attente, etc., des entretiens, enfin voilà. Voilà, c'est un peu arrivé un peu comme ça. Hein, sans...
okay.
Voilà, j'avais envie d'autre chose, en tous les cas, puisque ça se passait pas extrêmement bien là où j'étais, parce que quand on fait partie du CSE, ça peut être compliqué,
oui,
vis-à-vis du patron, surtout quand on est hargneux et qu'on lâche pas l'affaire. Donc voilà, donc c'est parti comme ça. Et puis après, je suis rentré en formation en septembre, j'ai fait une rupture conventionnelle.
Okay.
Et puis après, bah, voilà, ça a commencé
D'accord.
comme ça.
Donc, il n'y avait pas une volonté de ta part d'être plus éducateur ou assistant social. Il y avait, t'as postulé aux deux, t'as été retenu sur AS, mais est-ce que ouais, toi, tu connaissais ni l'un ni l'autre finalement dans les finesses un peu du métier. Ok. Donc, les premiers pas dans ton centre de formation, comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé? Bah, surpris déjà, parce que je pensais, ne connaissant pas l'univers du social, moi j'avais toujours touché du doigt en fait l'accompagnement des gens, mais en tant que bénévole, donc sans vraiment de responsabilité, en faisant ça un peu avec mes moyens personnels, on va dire, une certaine idéologie de l'accompagnement, de la bientraitance, de la bienveillance, enfin voilà, c'était un peu ce qui m'amenait en fait à m'occuper des gens, l'aide, voilà, un peu ce que tu retrouves dans ce qui se passait à l'ancienne, voilà, avec l'Église catholique, ouvrir ses portes, enfin voilà, c'était un peu les origines, hein. Et donc j'étais un peu surpris de ce brassage de personnalité, de mentalité, parce que voilà, j'étais un peu dans le monde des bisounours, en m'imaginant que tout le monde était bienveillant, tolérant, compréhensif sur toutes les sortes de handicaps physiques, sociaux, psychiques, etc.
Ok.
C'est pas forcément le cas, mais c'est ce qui apporte aussi des différences de point de vue, des différences de... voilà, des différences d'appréhension des situations, enfin voilà ce qu'on vit maintenant, ce que je vis maintenant depuis une petite quinzaine d'années, voilà, mais surpris de ça.
Okay.
Effectivement, de ce que moi je voyais comme étant du manque de tolérance.
Ouais, ok. Voilà. Tu pensais qu'en arrivant en centre de formation on était tous sur le même mood, en fait.
Ouais.
On est ici pour les gens, on est bienveillant,
voilà.
On accompagne correctement,
oui.
Avec du respect.
Oui,
okay.
Alors mais effectivement sans conscience des limites institutionnelles, etc. Parce que moi, dans tout ce que j'ai pu appréhender, alors ça, je le vois maintenant à la lumière de mon parcours.
Bien sûr.
Sur ce que j'ai choisi... quand j'étais en laboratoire, je faisais partie de l'unité recherche et développement. On était deux. Je faisais les horaires que je voulais. Dans le bénévolat, c'est pareil. Je venais régulièrement, mais je faisais les choses à ma sauce, en respectant les règles, hein, évidemment. Mais ça, je le vois à la lecture de mon parcours. C'est-à-dire que j'ai toujours choisi des endroits en fait, où j'avais la capacité d'avoir de la marge de manœuvre.
Ouais,
parce que
certaine liberté.
Oui, pour moi, ça, voilà, je vois maintenant que c'est très important d'avoir cette liberté.
Effectivement. Voilà. Ton premier stage de première année, tu te souviens où tu l'as fait?
Extrêmement bien. je peux le nommer?
Bah, tu peux sans nommer forcément le... Le nom de l'institution.
Donc je ne peux pas le nommer.
Voilà, okay. Décrire un petit peu quel public a été accueilli.
Dans le milieu médical.
D'accord.
Voilà. Troubles psy.
Ok.
Personnes âgées. Voilà. Et du coup, c'est un stage de 8 semaines. où c'est mes premières mises en situation, ouais. premiers entretiens individuels, première perception d'un public particulier. Et je me souviens très bien du premier rapport de stage que j'ai pondu, parce qu'en fait, c'était sur la place du social dans le médical, pour faire court.
Vaste sujet.
Vaste sujet. Je ne suis pas le premier à m'y être confronté, mais c'était compliqué à vivre pour moi, parce que la place de l'assistante sociale à l'époque... dans les réunions de synthèse, dans les propositions qu'elle pouvait faire, etc., était extrêmement limitée, okay. et du coup était drivée par une pression médicale très forte, où du coup en gros la parole était distribuée par le corps médical sur un droit de parole ou non, sur des actions ou non, voilà, qui étaient diligentées par le corps médical. Donc, extrêmement violent pour moi.
Ouais, pour faire le lien avec la liberté dont tu parlais juste avant, là, ça a dû être un petit peu le choc des cultures.
Ouais, c'est ça. Okay. Bah, et du coup, qui me faisait dire que ce serait compliqué pour moi de vrai. Alors, en même temps, moi, je suis toujours chahuté par les deux. C'est le paradoxe, parce que moi, je me dis, si on veut faire changer les choses dans un univers bien particulier, il faut y être. Et du coup, les faire changer de l'intérieur et pas accepter d'être dirigé, etc. Et puis se créer ces marges de manœuvre. Mais en même temps, quand c'est une première expérience, voilà, on se dit, bon, j'irai peut-être pas tout de suite instinctivement sur ce genre de métier.
Ouais. Voilà. Mais du coup, sorti de ce premier stage, tu te dis pas, en fait, c'est pas pour moi, parce que ça peut arriver aussi. Souvent, en première année, on voit que les promos... diminue un petit peu, parce qu'on est aussi là pour confirmer un choix professionnel sur ces stages, sur ces premiers apports théoriques. Toi, est-ce que ça te fait un peu cet effet-là de « en fait, je ne sais pas trop, là ».
Non. Mmh. Non, ça me fait pas cet effet-là, parce que quand j'arrive en formation, j'ai 30 ans,
ouais.
que du coup, j'ai un peu d'expérience aussi, et que même si je n'ai pas ce recul que j'ai aujourd'hui, je me dis que là où je suis allé, j'ai toujours fait mon bonhomme de chemin et décidé des marges de manœuvre que je voulais mettre en place là où j'étais. Donc, j'ai pas encore à ce moment-là un manque de confiance en moi qui me ferait dire que l'univers que je vais traverser, je ne vais pas pouvoir y avoir un impact.
Tu as le recul nécessaire pour te dire, ok, on prend le temps, oui. ça va, il y a d'autres choses qui existent,
oui.
Ok,
oui. ça marche. Et puis c'est un petit bout du travail social, et de cet univers qui est immense, donc oui.
Clairement. Donc on entame la deuxième année de formation.
Mm-hmm.
Comment tu te sens un peu plus armé sur ce deuxième stage qui arrive, sur ces deuxièmes, la deuxième année avec tous les apports, avec tous les projets qu'on monte aussi pendant ces deuxièmes années?
Moi, la première année, elle a été extrêmement théorique. On a 8 semaines de stage. Ça m'a fait du bien de replonger dans la théorie, de lire beaucoup. Le cinéma, enfin toute la culture en lien avec le social. Voilà, la culture canadienne aussi en lien avec le social que je découvre, que je ne connais pas. Enfin voilà, une année très très riche théoriquement.
Ouais.
Voilà, vraiment c'est ça en fait qui m'a animé pendant cette première année. Donc j'arrive effectivement en deuxième année. On est sur une formule avec des stages collectifs.
Oui, c'est ça, la deuxième année, c'est encore un petit peu...
Oui, c'est encore un peu le cas, mais bon.
Oui, collectif.
Voilà, donc avec un stage collectif où on va rencontrer en fait une équipe dans une institution, fonction publique, avec un groupe qui s'est constitué de 4 collègues, qui ont à peu près mon âge à l'époque. Donc ça, on a à peu près la même philosophie du travail social. Okay. Et du coup, on vient en fait sur un stage dans une institution où la commande est un petit peu particulière parce que, en gros, l'équipe est en souffrance et puis on doit servir en fait à exprimer la souffrance de l'équipe. C'est ce qu'on lit entre les lignes.
C'est quoi la commande institutionnelle? Qu'est-ce qui vous est demandé?
Qu'est-ce qui nous a demandé? Parce
que là, on rappelle quand même, du coup, vous êtes en début de deuxième année, donc même pas en milieu de parcours. Donc ouais, c'est ambitieux comme commande, mais voilà, est-ce que tu te rappelles ce qui avait été édicté du coup?
Oui, c'était mettre en lumière les choses qui dysfonctionnent dans le rapport à la hiérarchie dans cette institution.
Ok.
Voilà, et qui mettent des freins au bon accompagnement des personnes.
Oui, donc quand même relié avec le public.
Quand même, bien
parce
sûr,
bon,
oui.
Voilà, c'était ça le... Oui. Ok, d'accord.
Et donc, on a passé déjà un bon moment à redéfinir, en fait, la demande initiale. Voilà, mais du coup, ça a créé tout de suite un certain malaise avec l'équipe, parce qu'effectivement, on n'est pas allé. Et du coup, c'est plutôt la direction de l'institution qui a revisité le thème du stage. Et pour le coup, bah, l'équipe en place sentait que c'était plus une commande de l'institution que sa propre commande. Donc, on avait déjà une distance créée avec l'équipe.
C'est-à-dire que c'était pas forcément un besoin qui était relevé dans les stages collectifs comme ça. Ce qui est important de préciser pour les personnes qui nous écoutent, c'est que c'est souvent l'institution qui a une commande, mais avec un besoin repéré sur les personnes qu'on accompagne quand même, ou
sur le territoire.
Sur le territoire,
tout à fait. Ouais.
C'est plus ça qu'effectivement une institution avec une équipe en souffrance et où on relie quand même un petit peu les personnes et l'impact de l'accompagnement sur ces personnes avec une équipe en souffrance. Donc ouais, pas évident ce stage 2 du coup.
Le démarrage un peu particulier.
Ouais, j'imagine.
Oui.
J'imagine. Est-ce que tu arrives à en sortir des choses quand même? Parce que j'imagine que vous interrogez peut-être des personnes accompagnées, des membres de l'équipe, des partenaires, je sais pas. Mais en tout cas, voilà, vous faites des entretiens. Vous vous exercez un peu à l'entretien.
Oui. Oui, alors après c'était particulier parce que vraiment ils nous avaient mis dans un bureau tout au bout du service, donc physiquement ils nous avaient éloignés d'eux. Chacun d'entre eux, en fait, il y avait 4 membres dans l'équipe, avait pris sous son aile en fait un étudiant.
Okay.
Voilà, donc après on était en lien chacun avec notre référent. Donc voilà, moi ça s'est pas mal passé, mais ça s'est pas bien passé non plus. Enfin voilà, c'était un peu neutre.
Ok.
Et puis effectivement la bascule de la commande, alors nous on est tout de suite parti sur des choses qui n'ont pas beaucoup plu non plus, mais ça c'était plus institutionnel parce que nous on voulait, à travers notre démarche territoire, c'était un quartier qui était en mutation avec un plan urbain en fait qui redessinait un petit peu un quartier qui était en souffrance,
un quartier politique de la ville du coup.
Tout à fait. Donc du coup on voulait voir l'importance de l'institution au cœur de ce quartier, est-ce qu'il pouvait emmener. Donc on voulait partir d'un annuaire des aides sociales mises à disposition.
D'accord.
Du quartier. Okay. En lien avec le centre social, etc. Ce qui nous a été refusé.
Okay.
Instantanément, en disant que en gros si tout le monde avait connaissance des droits auxquels ils pouvaient prétendre, ça mettrait en mal financièrement l'institution. Voilà.
Comment tu reçois cette réponse en tant qu'étudiant de deuxième année? Parce qu'aujourd'hui, tu as le recul pour te dire, bon, mais en tant qu'étudiant de deuxième année, mais avec ton expérience, comment
À l'époque, c'est insupportable d'entendre ça. Voilà, maintenant, effectivement, avec le recul, j'entends. Mais moi je me dis toujours en fait que les choses doivent partir d'un besoin identifié des usagers toujours,
oui,
et tous les projets que je vois arriver en fait ils peuvent être discutés, la forme peut être différente, mais balayer d'un revers de main quelque chose qui fait qui est né d'une énergie, d'une dynamique particulière, faut jamais mettre ça sous le paillasson. Voilà, en gros.
Bah, puis d'un besoin repéré,
oui.
D'une demande presque.
Oui. Ouais. Donc oui, ça a été assez violent, mais ça l'est toujours. Hein. Moi, je me dis que tous les projets, quels qu'ils soient, en fait, émanent d'un besoin particulier. Donc il faut les prendre en compte et travailler la forme. Voilà. Mais du coup, on a fait autre chose. Ce stage 2 a... Du coup, ce qui a émergé de ce stage 2, c'est l'apprentissage des institutions, de la souffrance au travail. Enfin voilà, c'était plus un apprentissage sociologique, institutionnel, la vie en groupe aussi. Voilà, parce que pour l'anecdote, moi, j'ai eu une fracture du bras qui m'a immobilisé pendant 2 mois. Et du coup, l'institution a voulu mettre fin à mon stage.
Okay.
Donc là, pour le coup, l'IRTES m'est venu en aide pour que je puisse rattraper mes heures, etc. Donc c'était un peu particulier. Voilà, mais c'est l'apprentissage de la vie aussi. Enfin, voilà.
Oui, ok. Et du coup, tu ressors pas découragé de ce stage en te disant une nouvelle fois, bof, je sais pas, là, du coup. Parce
non,
que
mais...
quand c'est le public qui te. Bah voilà, on a tous des appétences au niveau du public. Quand c'est le public ou, voilà, qui te, t'anime moins. Et, mais après, quand c'est l'institution qui te met un peu des bâtons dans les, rues, dans les roues, pardon, consécutivement avec ton stage 1, tu n'es toujours pas senti découragé par.
Non, mais parce
ça.
Que. Alors, c'est toujours pareil, comme la première année. Alors là, j'avais 8 semaines en première année. En plus, c'était découpé un peu bizarrement. On faisait 2 semaines, puis une semaine. Enfin, mm-hmm. voilà. Donc, la latitude pour travailler sur des projets était plus compliquée. Là, sur cette deuxième année, en plus, on avait au centre de formation la mission de faire pendant un mois une action territoire théorique. Et en fait, avec le même groupe d'étudiants, moi, je leur avais dit clairement que je ne mettrais pas d'énergie à faire quelque chose qui était pas, qui se transformerait pas concrètement.
Mm-mm.
Donc, on a fait pendant cette deuxième année, en fait, une démarche territoire
okay.
où le thème, c'était la lutte contre l'homophobie. Où on a rencontré l'ensemble des acteurs et en fait on a mis en place une action avec un cinéma d'art et d'essai et une promotion pour diffuser un film et faire un ciné-débat.
Ouais.
Voilà, je crois que tu avais repris
oui.
le flambeau après. Ça, oui, ça a duré quelques années, 4 ou 5 ans je crois après, mais voilà c'était...
Oui, il y a dû y avoir 2 ou 3 années après nous, je
ouais.
crois.
Ouais. Voilà, peut-être 2 ou 3, effectivement. Mm. Mais du coup, c'était une belle réussite.
Oui.
On était en plus, c'était la sortie du film, du nouveau film de Terrence Malick. Donc, on a eu un peu peur parce que le jour de la sortie, on était dans la grande salle de l'Eldo qui fait 300 places, quelque chose okay. comme ça. Et du coup, à 19h30, la salle de 150 places de Terrence Malick blindée. Et puis la nôtre, il y avait 20 personnes.
Ouais.
C'était un peu compliqué à vivre, mais à 20h, tout était plein.
Ok.
Voilà, donc belle réussite. L'exercice de passer en radio, parce qu'on avait été loin dans la promotion.
Vous aviez fait Radio Campus aussi ?
Tout à fait.
Ouais, nous aussi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Radio Campus, qui nous avait accueillis. Enfin, voilà, c'est une très belle expérience. Et du coup, c'était au cœur de cette deuxième année. Et du coup, on avait déployé ça avec le centre social du quartier en question.
Ok.
On avait fait beaucoup de choses. Je me rappelle, on avait fait l'atelier... pour les chocolats de Noël, on avait fait les moulages avec des pâtissiers, etc.
Okay.
Enfin, on avait participé à plein de choses avec le boucher du coin aussi qui faisait office de trésorier du quartier.
D'accord.
Enfin voilà, on avait animé et fait pas mal de choses in situ qui étaient un peu en marge de l'institution. Donc on était allé au cœur du quartier, vraiment faire des choses.
Mais du coup, c'était complètement concret en fait de monter
oui.
ce projet-là. Parce que la démarche territoire, c'est faire une monographie, repérer un besoin sur un territoire, proposer un projet, mais sans aller jusqu'à la mise en œuvre. Et vous l'avez mis en œuvre.
Oui.
Et finalement, tous les apprentissages par lesquels on passe à l'IRTES, vous les avez déployés sur ce projet-là.
Oui.
Donc, tu ressors de cette deuxième année en ayant, j'imagine, une satisfaction de ce projet.
Mais oui, parce que moi, le bagage que j'ai aujourd'hui, je pense c'est de se dire, mais ça c'est, je pense que c'est mon parcours bénévole aussi, enfin voilà, dans ma vie, de me dire que rien n'est impossible.
Mm-mm.
C'est-à-dire que les freins qu'on met à chaque fois en disant bah là c'est pas possible financièrement, techniquement, moi je pense que si on a envie de faire quelque chose, on peut le faire.
Oui.
Très concrètement. Et s'arrêter aux moyens, c'est toujours voilà, aux institutions. Je pense que même toutes les institutions, les financeurs, ils sont prêts à écouter. Voilà, si on arrive avec des choses qui ont un sens.
Bien sûr.
Parce que c'était ça, en fait, c'était la formalisation de la quête de sens. Voilà, cette deuxième année, c'était ça, le sens qu'on donne aux actions qu'on mène pour les gens.
Donc là, tu touches, enfin, c'est même plus tu touches du bout du doigt, c'était en plein dedans, dans le sens du coup du travail social. Donc t'engages ta troisième année.
Oui.
Dernière année.
Oui, dernière année.
Vaste année, échelonnée par beaucoup d'échéances écrites.
Écrites, oui.
Puisque, je vais dire un mot qu'on n'aime pas trop, mais à l'époque, on avait plusieurs...
2012, hein, ça va.
Ouais. Pas mais ça a changé depuis.
Oui, beaucoup.
Ils ont la chance d'échelonner sur les 3 ans. Et nous, par contre, on avait des échéances mémoire, donc un mémoire de recherche à faire sur cette troisième année. Pouvoir exposer une situation individuelle via un dossier aussi d'une dizaine de pages et apprendre et maîtriser toutes les politiques sociales parce qu'on avait un examen sur les politiques sociales et que si on avait moins de 10, on ne validait pas notre diplôme. Enfin voilà, on avait des grosses échéances. Ouais. Comment tu abordes cette troisième année ?
Alors, toujours pareil, avec envie. Un stage en fait dans la grande exclusion, dans la lutte contre les grandes exclusions,
okay.
Dans une association, pareil, qui est une petite entité qui est née dans les années 90 d'un besoin à repérer, en fait sur des difficultés sur la quartier de la gare, puis du centre-ville, puis dans un quartier prioritaire. Alors c'est dans le même quartier.
D'accord.
Où j'ai fait mon stage de deuxième année en collective, donc déjà en fait avec des partenaires, un petit réseau qui se fait parce que c'est important le réseau,
ouais, bien sûr.
Mais que je maîtrise déjà sur le maîtrise que je voilà,
tu connais quoi, en
voilà
cas,
je connais un petit peu,
t'as
déjà
des connaissances,
voilà, donc ça facilite un peu. Et puis la taille du service et puis la commande pour par rapport à ce service du coup me convient bien. C'est-à-dire beaucoup de, pareil, une marge de manœuvre, une référente qui me fait confiance tout de suite,
okay.
Qui me laisse œuvrer, voilà, en entretien individuel assez vite, dans les actions que je peux mener assez vite aussi.
Okay.
Donc voilà, avec des rendus comptes réguliers, mais c'est, enfin voilà, c'est.
Tu te sens en autonomie,
oui.
En responsabilité,
oui.
Et tu t'y retrouves au niveau de la liberté, du coup, de pouvoir imaginer en fait, pouvoir emmener tes, voilà, les personnes que tu accompagnes, un peu comme tu veux, mais voilà, c'est l'idée, c'est pas de voilà d'outrepasser le cadre institutionnel,
bien
mais c'est
non,
en
jamais.
Tout cas d'avoir la latitude de pouvoir te penser les choses.
Exactement.
Voilà, c'est ça que je veux dire.
Oui.
Okay.
Et qu'à partir, moi je me dis toujours, c'est un peu redondant hein, ce que je dis, mais à partir du moment où les choses sont pensées, qu'il y a du sens et que ça répond à un besoin, on peut tout imaginer.
Mm-hmm.
Et là, pour le coup, c'était des prises en charge qui étaient assez particulières, parce qu'en gros, c'était, le service était sollicité par le droit commun,
okay.
Quand ils étaient au bout de leur capacité d'action.
D'accord.
On était sollicité, il n'y avait pas de délai de prise en charge, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui pouvaient être accompagnés 3, 4 ans, 5 ans, peu importe, voilà, avec 4 phases, donc l'affiliation, l'apprivoisement, comme il le disait,
okay.
La phase de traitement, la phase de stabilisation et la phase d'orientation.
D'accord.
Voilà, et du coup, selon les 4 phases, bah, ça pouvait durer plus ou moins longtemps. Et j'aimais bien en fait ce challenge d'aller, il était beau ce mot, challenge, challenge,
challenge.
D'aller au devant des gens qui avaient eu un parcours en lien avec les travailleurs sociaux qui pouvaient les faire ne pas adhérer, parce qu'on était dans la libre adhésion, mais il fallait aller au devant d'eux.
Ok.
Donc...
Tu faisais déjà de l'allée vert en fait à l'époque,
ouais.
Parce qu'on a vulgarisé l'allée vert
oui.
Là très récemment.
Ah bah là, on
mais
était
toi, t'étais en plein dedans.
En plein dedans. C'est-à-dire que les entretiens bureaux, il n'y en avait quasiment pas.
Ok.
Et il fallait aller au domicile, seul. Enfin voilà, avec des gens qui avaient des troubles psy avérés, syndrome Diogène, voilà, qui étaient dans le refus de soins. Enfin voilà. Qui ne voulaient plus aller voir les travailleurs sociaux. Donc, il fallait gagner leur confiance par un biais.
Oui, ce que j'allais te demander, comment tu rentrais en lien, du coup, avec eux, s'ils n'étaient pas dans la demande, finalement, et plutôt presque dans le refus, parfois, j'imagine.
Alors, il fallait trouver, et c'est là où était le défi, il fallait trouver, en fait, à travers leur histoire de vie, à travers leur parcours, des éléments qui pouvaient faire nous raccrocher à eux. Ça pouvait être aussi bien dans le rapport où on voyait que leur machine à laver était cassée, donc on leur en fournir une nouvelle, mais aussi qu'ils étaient fans de Steven Seagal, donc voilà, par le biais d'un DVD de Steven Seagal. Non, mais c'était
oui,
aussi...
non, mais c'est des petites choses qu'on repère,
oui.
Et les visites à domicile nous donnent
oui.
énormément d'infos,
c'est
sur
ça.
Les personnes et leur fonctionnement.
Et du coup, quand la porte n'était pas ouverte, eh ben, on collait des mots sur la porte en disant qu'on allait repasser à tel moment.
Okay.
Voilà, des colis alimentaires qu'on avait aussi. Enfin voilà, il y avait tous les biais.
Étaient possibles.
Étaient possibles.
Mmh. Et
ça, c'est... Ouais. Donc, et des fois, on s'appuyait sur les institutions ou sur les règles aussi, parce que c'était l'époque où le RSA est arrivé aussi, ouais. Et du coup, avec les droits et les obligations. Donc, on se servait aussi de ça, en lien avec le partenaire CAF, pour dire il faut peut-être stopper ou l'alerter qu'on est là et que s'il ne vient pas vers nous, c'est nous qui reprenons la main sur ce contrat. Donc, voilà. Voilà, il y avait tous les biais possibles, le bailleur, les différentes commissions. On avait beaucoup de gens aussi en procédure d'expulsion à qui on pouvait proposer du coup d'agir sur le fait de les reloger par le biais de baux fixes ou de baux glissants. Enfin voilà, au nom de l'association ou au nom, enfin voilà, ou à leur nom et au nôtre. Enfin bref, énormément de moyens, voilà, aussi. Mais là, pareil, des moyens intellectuels, j'ai envie de dire. Voilà, parce que personne ne m'avait donné de mode d'emploi pour arriver jusqu'à ça. Mais voilà, une grande liberté d'action, des marges de manœuvre toujours, dans le respect, bien sûr, des institutions, de la légalité, évidemment.
Toi, tu t'y retrouves dans ce stage 3, du coup, là, vraiment. Est-ce que tu as une situation comme ça que tu as encore en mémoire pour illustrer un petit peu ton action sur ce stage 3 ?
Alors c'est difficile parce qu'après, en mois de juin, du coup, j'ai été embauché là-bas.
Okay.
Et du coup, j'y ai travaillé pendant 5 ans dans ce service-là. Donc pendant le stage 3...
Ou alors du coup, pendant les 5 ans, enfin si c'était le même service, du coup, enfin voilà, ce qui te paraît le plus opportun.
Alors pendant le stage, je me souviens d'un monsieur... la filiation s'est faite un peu violemment. Parce que dans la rue, il s'est fait, il voulait pas rentrer en relation avec moi depuis 3 mois, je crois. Mais il me disait qu'il voulait pas rentrer en relation. Et en fait, cette personne s'est fait attaquer à la hache dans la rue.
Ok.
Et du coup, moi, j'étais à la fenêtre de mon bureau, je l'ai vu. Et du coup,
sous tes yeux.
Oui, sous mes yeux. Donc, j'y suis allé. Le monsieur, et c'était un peu dans mon idée, parce que je pense que la violence du choc fait que je l'imagine un peu comme la personne dans Souviens-toi l'été dernier, le pêcheur là, avec un veston en noir, avec un sabre à la main, mais je ne sais pas si c'était un sabre ou une hache ou je ne sais pas quoi.
Okay.
Mais en tout cas, il l'avait attaqué à la jugulaire.
Okay.
Il pissait le sang, donc en fait, j'ai tiré ce monsieur-là dans les escaliers. J'avais pris une couverture de survie, voilà. Et du coup, j'avais ma main sur sa plaie, machin. C'est une bonne entrée en matière pour... commencer à accompagner quelqu'un.
Ouais, j'imagine. Je te sauve la vie. Maintenant, tu veux bien qu'on discute.
Mais il savait pas que c'était moi. Après, quand je lui ai raconté tout ça, parce qu'il a été hospitalisé,
j'imagine ça a dû être.
Je suis revenu, machin. Il savait pas que c'était moi. Donc, en fait, je lui avais dit que c'était moi. Enfin voilà. Mais pas plus d'émotion. Il y avait des troubles psy très très graves. Voilà. Donc il y a. Alors je sais pas. Je suis entré en lien plus parce que du coup, je suis allé voir à l'hôpital après. Enfin voilà, j'étais en lien avec sa famille. Bref. Pardon. Donc voilà, c'est plus par ce biais-là que le fait de l'avoir tiré dans l'escalier à cette époque-là. Ah, donc ça, c'était le fait un peu marquant de mon stage. Après, dans les 5 ans, extrêmement riches, des partenaires... sur chaque situation, j'ai déployé des partenaires nouveaux, j'ai l'impression. Enfin, on avait au départ 40 prises en charge.
Ok, 40 prises en charge par travailleur
par
social.
Par travailleur social, c'était énorme.
Ouais, c'est
donc
énorme.
On est passé à 30. Ça allait un peu mieux.
Juste pour préciser, 40 ou 30 personnes en tout cas, dont tu as la charge de l'accompagnement social global.
Global, bien sûr.
Voilà. Ouais. Tu déploies des partenariats sur la santé, sur des addictions, sur la justice, sur les bailleurs sociaux, etc. Mais toi, tu coordonnes tout ça pour 30 ou 40 personnes.
Oui.
Ok.
On fait office de coordinateur de la situation. C'est-à-dire que chaque pan, que ce soit la santé, etc., enfin voilà, l'aspect financier, le logement, l'emploi, enfin oui, tout est à coordonner, effectivement. Pour devenir en fait le référent avec une latitude, parce que du coup, on présentait à nos financeurs, c'était tous les 6 mois ou tous les ans, un rapport dans une commission pour savoir si on voulait continuer. Voilà. Mais il n'y avait pas de fin de prise en charge, voilà, comme c'est actuellement la pression des financeurs pour faire 9 ou 12 mois de prise en charge, ou 6 des fois. Là, il y avait plus de latitude.
Ok.
Voilà.
Parce qu'on est... Tu penses que c'est parce qu'on était dans une autre époque, ou parce que, époque entre guillemets, enfin en tout cas, et ou que là, le besoin sur de la grande exclusion,
oui,
voilà, était
oui, oui,
plus,
oui, oui.
plus important en tout cas.
Plus important, et du coup, il y avait, je pense que les financeurs comprenaient qu'on ne pouvait pas faire le même travail avec ces personnes-là qu'on le ferait dans le droit commun, ou voilà. Donc, je pense que c'est toujours en cours d'ailleurs, dans le service dont, que j'évoque là.
Ok.
Je sais plus où j'en étais.
Eh bien, tu fais 5 ans là-bas.
Ouais, 5 ans.
Du coup
Les situations sont multiples et variées. Je pense qu'après, celle qui m'a beaucoup animée, c'est... et celle que j'ai présentée lors de ma troisième année en études dans le cadre de l'ISAP, de, voilà, l'intervention individuelle. Une dame multiproblématique où du coup j'ai tout traversé avec elle, de la santé, de l'emploi, de la maternité, de la problème aussi en lien avec ses papiers administratifs parce que d'origine étrangère.
Ok.
Enfin voilà, elle m'a tout fait. Le logement, le, enfin, voilà, le lien à la parentalité aussi avec, avec des enfants, enfin voilà.
Okay.
Un conjoint violent, enfin bon, ouais, je crois que ça a été la totale.
Ouais, bon premier aperçu, très très global du coup.
Très très global, voilà. Mais du coup, je l'ai pris en charge sur les 4 ans.
T'as continué du coup, sorti de l'IRTES, voilà. Voilà, tu restes sur le même service.
Oui.
Et tu continues à l'accompagner cette personne.
Oui, et puis après, au bout de 4 ans, je demande à ce que ce soit un collègue qui reprenne parce que... Je pense que c'est important aussi de mettre du mouvement, voilà, et de ne pas rester sur ma vision à moi telle que je planifie les choses, même si les choses ont beaucoup évolué, que ça s'est stabilisé largement. Mais du coup, au bout d'un moment, il faut, voilà, faut passer la main parce qu'on n'est plus utile voilà, à la personne dans ce qu'on propose.
Ok. Ton mémoire, tu le fais sur quoi en troisième année ?
Sur le sociolecte.
Ok.
Sur le... alors j'ai traversé les institutions, les associations, etc. Et en fait, je suis happé par cette thématique parce que j'ai l'impression que quand je parle à certaines personnes en tant que travailleur social, ils me comprennent pas ou je me fais pas comprendre. Et je suis dans l'entre-deux, c'est-à-dire est-ce qu'on doit être la politique du grand frère ? C'est-à-dire être dans le mimétisme, être dans bah, j'ai traversé ce que tu as traversé, donc voilà, je te comprends, donc je peux t'accompagner, ou alors être dans une institution et puis représenter quelque chose. Et à ma grande surprise, alors c'était du qualitatif, pas du quantitatif, sur l'enquête que j'ai menée, donc les gens que j'ai pu interviewer disaient qu'ils avaient besoin d'avoir en face d'eux des gens qui avaient un langage verbal très riche et très fourni, limite qu'ils ne comprennent pas, parce que ça les rassurait, vu qu'ils étaient eux-mêmes sous une forme d'échec.
Okay.
Ils voulaient avoir en face d'eux quelqu'un, à limite, qu'ils ne comprennent pas, parce qu'ils étaient sûrs d'obtenir des choses.
Ok, c'est intéressant.
Voilà, et que du coup, on faisait ce lien avec les institutions qu'ils ne comprennent pas, et l'institution ne les comprend pas et eux ne comprennent pas l'institution. Et si nous, bah, dans notre relation, dans ce qu'on peut expliquer, bah, on ne se fait pas comprendre non plus, ils se disent bah, au moins ils vont comprendre les institutions.
Ouais,
et on va gagner
ça
des
rassure,
choses. Il y a un effet rassurant. Voilà, donc c'était très, très intéressant.
C'est hyper
comme,
intéressant. Ce n'est pas commun comme thème de stage, enfin thème de mémoire, du coup. Ok, donc tu obtiens ton diplôme, tu fais 5 ans dans la même structure.
Oui.
Qu'est-ce qui t'amène à changer ? Une opportunité, cinq ans dans la grande exclusion, ça doit être aussi assez épuisant.
Oui, c'est épuisant, effectivement. Donc après, je me rends compte, mais de toute façon, dès le début, j'avais dit que, parce que j'avais vu en prenant place dans ce service, alors ils ouvraient un poste, il y avait trois salariés et un chef de service, et ils ont ouvert un quatrième poste parce qu'il y avait des besoins, une grande liste d'attente, etc. Donc j'ai pris ce quatrième poste et j'ai vu successivement en fait des collègues partir mais partir épuisé, éreinté, voilà, qui avait perdu un peu le mojo hein, pour le travail social. Ouais.
Tu te souviens combien de temps ça faisait qu'il travaillait dans ce service-là ?
3 ans, c'est ce que je m'étais dit à peu près.
Ok.
Ouais, 3-4 ans.
Ok, au bout de 3-4 ans, les travailleurs sociaux, ils étaient une forme de fatigue, d'épuisement professionnel.
Enfin voilà, oui, légitime. Hein.
Ouais.
Et je m'étais dit ça. Quand j'étais arrivé, je m'étais dit, voilà, je vais y rester 3-4 ans aussi. Je vais faire mes armes, un réseau, et puis après, j'irai voir ailleurs, naturellement.
Ok.
Voilà, c'est toujours un peu comme ça que je vois les choses aussi, en tout cas sur les mêmes fonctions. Voilà, je pense qu'il faut redonner du souffle. Voilà, et du coup, ça s'est fait par... maintenant, avec le recul, ça s'est fait un peu violemment, on va dire, parce que du coup, c'était un changement de système avec l'arrivée d'un chef de service qui, alors de mon point de vue, n'a pas fait ce qu'il fallait pour être bien intégré, etc. Mais bon, il y a eu, suite à son arrivée, des demandes de licenciement, d'éclatement d'équipe, etc. Enfin voilà, ça a été assez violent pour tout le monde. Mm-hmm. Mais moi, je voulais tourner la page, donc j'ai demandé un changement de service assez rapidement au sein de la même association. Et puis j'étais aussi en lien avec d'autres associations, voilà, sur d'autres projets. Donc
pardon, je te coupe juste avant qu'on arrive sur ton changement, mais c'est quoi l'ambiance de l'équipe quand t'es en stage ou au début, avant ce changement en tout cas de cadre, comment parce que vous avez des situations individuelles qui sont lourdes, mais du coup, j'imagine que vous avez quand même un fort besoin de partage, en fait, et de sentir un peu l'équipe soudée, parce que si à un moment donné, vous avez besoin de pouvoir aller solliciter un collègue pour être accompagné, intervenir à deux, etc., est-ce qu'il y a ce mouvement un peu de solidarité dans l'équipe ?
Extrême.
Ok,
c'est-à-dire
ça pousse à ça finalement.
Oui, bien sûr, alors, les liens sont extrêmement forts. Il y a même un autre service qui agit en fait, pareil, lutte contre les grandes exclusions, mais sur une autre commune.
Okay.
Et en fait, on forme un grand service,
d'accord,
même entité, même si voilà, on est sur deux agglomérations différentes. Et du coup, voilà, c'est même le responsable à l'époque nous appelle la Dream Team, parce que je pense qu'on a des résultats, mine de rien. Mmh. Même sur le flux, sur le résultat pour les gens, bien entendu, sur leur réorientation, leur orientation droit commun, enfin voilà, ça se passe très très bien pendant 3 ans. Et voilà, c'est un peu l'effet de la Dream Team, une équipe soudée. Et puis le besoin d'un chef de service, en gros, financièrement, on a une enveloppe financière qui nous permet plusieurs options pour déployer des moyens. Okay. Et en fait, en consentement avec l'équipe, on souhaite avoir un chef de service, parce que le responsable qu'on a à l'époque, il a une dimension de 250 suivis.
Okay.
Sur les deux services.
Ouais.
C'est énorme. Ouais. Et du coup, il est plus sur des fonctions de directeur que des fonctions de chef de service.
Mm-hmm.
Et en fait, ça émerge vraiment du service, enfin des travailleurs sociaux qui sont là,
d'avoir un chef de service. Qu'on a besoin d'un intermédiaire, en fait.
Voilà.
Ok.
Et donc, quand la personne est recrutée, elle n'a pas de... Alors, je le dis parce que c'est ça, je ne sais pas si c'est bien ou mal, mais en tous les cas, elle a fait toutes ses études, elle n'a pas été travailleuse sociale, elle a fait des études après supérieures pour devenir cadre.
Okay.
Et donc elle arrive à ce moment-là sans connaître le milieu du social, mais enfin sur un aspect théorique et de stage, etc.
Elle découvre le travail
elle
social.
Elle découvre le travail social.
Et elle commence par la grande exclusion.
Voilà.
Okay.
Donc j'imagine que pour elle c'est extrêmement violent,
j'imagine.
Mais effectivement elle commence par dire que en gros, elle se positionne comme voulant nous dire quoi faire. Et je pense l'erreur de pas écouter ce que nos besoins à nous, mais comme
ce que vous traversez, ce que vous vivez.
Oui, comme on le fait nous avec le public qu'on accompagne en tant que travailleurs sociaux, c'est-à-dire que avant de déployer des actions, on écoute, on analyse, et puis après on propose des choses. Et elle est arrivée en proposant une révolution industrielle, et c'est, je pense, cette écoute n'a pas eu lieu. Et du coup, il y a eu des réactions de toutes parts. Et du coup, forcément, des arrêts maladie, c'est parti un peu, mais très très vite, en l'espace de 3-4 mois.
On peut souligner un peu ici l'importance de faire équipe dans ce genre de service, mais dans tous les,
dans tous les services
en fait, ouais. Et l'importance d'être écouté, effectivement, même si voilà, les cadres peuvent des fois pas forcément comprendre parce qu'ils le vivent pas, mais écouter, c'est la première chose. Ok, donc je reviens du coup sur ta bascule, ton changement. Comment il s'est opéré ?
Alors moi, le changement, on avait tous des suivis, des liens. Moi, je voyais ça un peu de loin parce que on était très très autonome. Donc toujours pareil, je pense que moi, je me suis créé en fait un espace d'autonomie. J'avais des résultats. Donc en gros, on venait pas regarder ce que je faisais parce que du coup, il y avait des résultats. Et du coup, quand cette personne est arrivée, en gros, elle est venue me dire que par rapport au travail que je faisais, elle me serait pas très utile. Et du coup, moi, je lui disais, moi, j'ai besoin sur certains leviers partenariales, partenariaux, d'action d'un responsable de service, puisque c'est la voie hiérarchique. Et donc, j'ai eu une fin de non-recevoir. Et donc, moi, j'ai vu que du coup, c'était la fin d'un cycle. Et c'était la fin de mon propre cycle. Mais du coup, je n'ai pas vécu aussi violemment tout ce que les autres ont. Alors, c'est un peu la pratique de la fuite. Hein. Je dois le dire, c'est sans doute une attitude un peu lâche. Mais je pense que c'était la fin de mon cycle. Et du coup, j'ai fui dans un autre service qui me plaisait aussi, mais c'était aussi la lutte contre les grandes exclusions, moins de prise en charge, mais enfin voilà, je sentais que d'ailleurs sur ce second service j'ai fait un mois.
Ok.
Voilà.
Donc non, c'était pas.
Oui, parce que j'étais.
Enfin voilà.
J'étais pas attendu, j'étais. Enfin bref. Est-ce qu'on.
Non, on n'était pas obligé d'aller dans des détails. Non. De toute façon, mais on comprend l'idée. En fait, t'as su à un moment donné te dire je me préserve. Aussi parce que je suis à la fin du cycle et que les choses qui me conviennent plus là, de toute façon, j'ai pas de levier forcément dessus là dans l'immédiat.
Oui.
Et puis, ça fait 4-5 ans que tu es là et voilà.
Mais c'est ça, moi déjà naturellement, je m'étais dit, voilà, en voyant, comme je disais avant, hein, 3-4 ans c'est bien, là on arrive à 5 ans, pour moi c'était la fin d'un cycle. Ouais. Et aller dans une lutte une querelle hiérarchique, etc., pour moi, ça n'avait pas de sens parce que pour moi, je me disais de toute façon qu'il fallait que je change.
Ouais.
Donc, que ce soit par cette voie-là ou par une autre voie, voilà. Okay. C'était pas le.
Tu arrives sur le nouveau service.
Oui.
Dont tu peux nous parler.
Oui. Alors, exactement dans ce moment-là, en fait, où je suis dans cette transition où j'arrive sur le nouveau service. Je suis sollicité par des gens que je connais par le biais de mon réseau et qui me disent qu'effectivement, dans l'association où je suis aujourd'hui, il y a une écriture de projet sur un public qu'ils ne connaissent pas, mais moi qui m'intéresse depuis très longtemps.
Okay.
Parce qu'en fait, c'est ça qui me guide depuis que je suis adolescent, je pense. Alors, parce que j'écoute beaucoup de hip-hop, etc. Enfin, voilà, c'est un peu... mais du coup, j'ai toujours eu à cœur de travailler avec les sans-papiers. Enfin, voilà, les droits de l'homme. Enfin, voilà. Et du coup, ils me sollicitent parce qu'ils savent que je suis dans cette ambiance-là, on va dire. Dans cette idéologie, et du coup on coécrit un projet parce que des financeurs ont sollicité sur une problématique bien particulière, c'est celle de la migration. Et ça se fait très rapidement, c'est-à-dire que je change de service au mois de juin, et au mois de juin ils disent on a déposé le dossier, le projet il a été adoubé, donc quand est-ce que tu peux démarrer? Je peux démarrer en septembre. D'accord, tu peux démarrer en septembre, donc il faut que tu sois là le 10 août.
Voilà. Ouais, très bien.
Très bien. Donc voilà comment ça naît. Alors, pareil, moi, un projet, 4 murs, et puis tout est à construire.
Oui, c'est ce que j'allais te demander. Du coup, tu dis l'écriture d'un projet, donc tu n'arrives pas dans l'existant.
Non.
La migration... On est en 2017.
Ouais.
commence à s'accélérer fortement.
Oui, mais moi, je n'en ai pas connaissance, parce que je ne suis pas du tout
dans
ce...
Ouais, mais quand on n'est pas effectivement lié par une politique sociale, un service ou quoi, on ne se rend pas forcément compte des mouvances un peu du milieu.
Oui, alors sauf que j'ai, entre-temps, quand je suis muté dans le 1 mois de mes services, là, je vois une formation sur la migration, diligentée par M. Demangy, qui est dans une association, la Comed, et du coup qui est un peu conseiller ministériel, etc., et qui vient à Dijon faire une formation de 2 jours. Donc j'ai réussi à gratter ça, parce que je sais que derrière je suis en train d'avoir des contacts. Donc voilà, j'arrive avec ces éléments là et puis avec cette vision là.
Donc t'écris un projet.
Oui.
Tu pars d'une feuille blanche, presque.
Oui.
Et tu montes une structure. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, du coup, sur la structure, le public et aussi la philosophie que tu arrives à insuffler ou à envie d'insuffler ?
Oui, envie plutôt, parce que, en gros, il faut. Donc, c'est une demande de 2 institutions. Qui nationalement ne s'assoient jamais ensemble entre la prise en charge des mineurs et des majeurs. Donc deux mondes qui se connaissent peu, qui se parlent peu et qu'on arrive à faire s'asseoir pour des intérêts communs. Donc ça déjà, ça se passe pas ailleurs en France, mais ça je l'apprendrai plus tard, mais assez vite, parce que du coup je vais vite dans la Fédération des acteurs sociaux, oui. À Paris, qui prépare des choses par rapport au Sénat, etc., sur les lois sur l'immigration. En gros, en 2017, il n'y a rien. Moi, j'arrive ici, vraiment 4 murs. On me donne, mais c'est un exemple, hein, mais on me donne une poubelle remplie de clés pour me dire, voilà, maintenant le site, il a été déserté. C'était des personnes à mobilité réduite qui étaient sur ce site.
Ok.
Où du coup, il y a une 30aine de chambres. Maintenant, il est à vous. Voilà les clés. Voilà, mais chaque clé est individuelle et en fait il n'y a pas de porte-clés, etc. Donc j'ai un seau de clés et avec des chambres vides et voilà.
Donc chambres vides, on précise qu'il y avait un lit, il y avait...
Il n'y avait rien.
Rien, chambre vide.
Vide totalement, donc okay. Avec une prescription pour une lettre qui est partie d'une des institutions qui finance le service, précisant que les accueils des jeunes vont commencer au 23 août.
Voilà. Et du coup, tu arrives vraiment le 10 août ?
J'arrive le 17 août.
17.
Oui.
Et le 23.
Et le 23.
Le 23, ils arrivent.
Ils arrivent. Okay. Donc voilà, on a à peine l'argent sur le compte. J'arrive surtout sur un site qui est occupé, c'est-à-dire par des salariés qui sont là depuis extrêmement longtemps. Donc j'arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, hein, c'est vraiment le cas de le dire, en disant ah vous êtes le petit nouveau qui arrive pour un service qui va se monter, voilà, personne n'en a entendu parler.
Okay.
Voilà, ils sont tous là pour d'autres raisons que le service que moi je suis en train de monter avec l'association.
On précise que tu es toujours assistant social.
Toujours.
Du coup. Hein.
Oui, bien
là,
sûr.
Parce que tu es recruté sur un poste qu'on pourrait imaginer, enfin monter un projet, ouvrir un service, plutôt de cadre. Mais toi, là, à ce moment-là, à l'ouverture, tu es toujours à S.
Oui, toujours à S avec des fonctions de coordinateur.
Ouais,
C'est comme ça, en fait, que c'est proposé. Donc, je dois faire mi-temps de coordination et mi-temps d'AS pour accompagner les jeunes. Donc, on déploie énormément d'énergie. Alors déjà, moi, il faut que je prenne attache avec l'ensemble des structures qui orientent les jeunes, savoir comment ils vont être orientés, par quel biais.
Oui.
Ils arrivent de tous les canaux différents entre protection de l'enfance et puis le monde de l'adulte. Voilà.
Et ça, c'est un milieu que tu ne connais pas.
Non.
Du coup, protection de l'enfance, les mineurs, même le secteur adulte de la migration, très
connais
peu.
Pas. Très peu, avec la dame dont j'ai fait référence tout à l'heure. Quoi, mais vraiment, les liens avec la préfecture, monter un dossier, etc. Enfin, vraiment, c'est très loin de mes compétences actuelles.
Ok.
Enfin, voilà, donc... j'ai dû faire face à l'équipement des chambres. Il y avait une volontaire service civique qui était sur un autre service qui est venue m'aider. J'ai eu des supérieurs hiérarchiques aussi qui se sont mobilisés, hein, pour m'aider dans tout ça, mais équiper les chambres, trouver en fait par chance, parce qu'il en faut un peu aussi. Hein. Il y avait un service de la SNCF, je peux le nommer.
La SNCF, on peut le dire.
On peut le dire. Du coup, qui fermait un bâtiment. Donc, en fait, il y avait 60 lits disponibles avec des tables de chevet, machin. Donc, bon, ça tombe bien. Bonne opportunité.
On n'a juste pas précisé combien de places tu ouvres là en août 2017.
35 places. 12 mineurs et 23 majeurs. Pardon. 12 mineurs et 23 majeurs.
Okay.
Et donc, oui, alors les mineurs arrivent plus tardivement parce qu'ils sont, voilà, ils sont encore dans les services, etc. Donc j'arrive à différer leur venue. Voilà, fin septembre, c'est ce qui est convenu. Et par contre, les majeurs arrivent voilà, à partir du 23. Voilà, alors surtout, ils arrivent à partir du 23. C'est une injonction d'une institution. Tous les partenaires sont très hostiles à l'ouverture de ce service. Ça ne se passe pas très bien dans les différents échanges que j'ai pu avoir avec eux. Donc, il faut aussi gérer ça. Voilà, dans les différentes commissions, dans les différents partenariats. Voilà, donc il faut faire preuve de pragmatisme, mais en même temps remettre les choses un peu dans leur contexte. Mmh. Surtout, moi, je tiens à ce que ça ne se fasse pas en présence du public. Quand il y a une animosité, je peux en discuter, mais en tout cas pas en présence des jeunes. Voilà, les choses se passent comme ça. Et puis, j'accueille, je fais AS, cordeau, les travaux, enfin tout ce qu'il y a à faire dans un lieu d'hébergement. Et puis, j'ai du renfort. Du coup, il y a des recrutements qui se font. Et puis, j'ai du renfort fin octobre de l'année 2017.
Voilà. Quand tu dis renfort, on peut peut-être juste préciser qu'en fait, ton équipe arrive fin octobre.
C'est ça.
Donc, pendant presque 2 mois, tu es... Seul à bord.
Oui.
Ok.
C'est ça, avec la hiérarchie aussi, oui. Hein, mais qui n'y connaît pas plus que moi, ouais. Qui a d'autres responsabilités sur d'autres services, enfin voilà, qui me laisse un peu mener les choses, voilà.
Les missions, du coup, du service.
Alors, les missions du service actuel, c'est l'objectif numéro un, c'est la régularisation des personnes sur le territoire français. Voilà. Donc, ça veut dire que la mission du service, c'est... avec une deadline de 19 ans moins un jour, de déposer une demande de titre de séjour pour les jeunes issus de la protection de l'enfance, voilà, okay. Auprès de la préfecture, avec tout un tas de critères, du coup, en lien avec le travail, la scolarité, voilà.
Ça, c'est la mission numéro 1, et on rattache cette mission à tout un accompagnement global,
oui.
En fait,
toujours.
Puisqu'on traite toujours de la santé, de... La scolarité, tout est très lié. Est-ce que tu peux peut-être nous en parler un petit peu ? On peut faire un petit stop là sur un focus sur le lien qu'il y a entre cette régularisation et l'accompagnement global.
Oui, alors à chaque fois, alors ce qui est bien dans ce service, c'est qu'à chaque fois qu'il y a eu des... Parce qu'il a beaucoup évolué, maintenant on accompagne une soixantaine de jeunes. Voilà, 23 mineurs et puis 35 majeurs pour être tout à fait...
Presque doublé l'effectif.
Oui, on a doublé l'effectif.
En 5 ans.
Parce que, oui, en 5 ans, parce que je pense qu'on, pareil, on a eu de bons résultats. Les partenaires ont confiance dans le service, dans ce qu'ils proposent. Enfin, voilà. Donc, je pense que ça, on a bien réussi grâce à toute l'équipe. C'était quoi la question ? Pardon, je m'y perds. Non.
Le lien entre...
dans la prise en charge globale.
Ouais, la prise en charge globale avec la régularisation. Que alors, tu puisses exposer que tout est un peu interconnecté.
Oui, alors l'objectif, c'est celui-là. Et pour y arriver, évidemment, il y a tout un parcours. Le jeune, il est pris en charge. Alors, il peut être pris en charge en tant que mineur, mais aussi en tant que majeur.
Ouais.
Et évidemment, c'est une prise en charge globale en plus avec l'hébergement, donc la gestion du quotidien. Mais ce qui nous permet d'avoir énormément d'alimenter la relation avec la personne, parce qu'il y a l'objectif de déposer la demande de titre de séjour, donc avoir l'identité prouvée sur papier du jeune. Il faut qu'il soit en scolarité avec 6 mois sur l'aspect professionnel avant le dépôt de sa demande de titre de séjour. Et évidemment, pour faire tout ça, il faut que le jeune soit en bonne santé. Et donc ça, c'est l'axe numéro 1, parce que pour effectuer toutes ces démarches, il faut que psychiquement et somatiquement, ils soient en capacité de le faire et déployer cette énergie-là qui est une énorme énergie une énorme pression pour le jeune. Donc, c'est vrai qu'on a construit le service avec ce type de ressources par rapport à l'évolution du service. C'est-à-dire qu'il y a eu des choses très, très pratico-pratiques dès le début. C'est-à-dire qu'on a recruté des personnes qui étaient en capacité de faire les dossiers de demande de titre de séjour. C'est ce qu'on nous demandait.
Ouais.
Voilà, pour avoir des résultats tout de suite et pouvoir du coup capter les financements qui reviennent tous les ans. Il faut avoir des résultats. Et après, quand on a du résultat, on peut se déployer. Et du coup, on peut avoir du temps de psycho supplémentaire. On peut déployer de l'énergie sur l'extérieur, sur ces axes-là, sur l'axe somatique. On peut avoir une éducatrice sportive et culturelle sur l'accès à la citoyenneté pour voilà, alimenter cet aspect du quotidien aussi. Et puis le bien-être des jeunes accueillis. Enfin voilà, tout s'est fait par étapes.
Okay.
Voilà, une maîtresse de maison qui peut voilà, les accompagner aussi dans les tâches du quotidien. Enfin, voilà, tout s'est déployé au fur et à mesure, mais on a dû répondre, parce que c'est toujours un peu ça, hein, c'est faux. Ayez des résultats, vous avez des résultats,
oui.
on va vous donner plus de moyens.
Parce que là, pour qu'on précise, du coup, quand tu arrives en août 2017, tu as un financement pour un an.
C'est ça.
À peu près.
Oui.
Voilà.
De donc, chaque côté.
De chaque côté.
Oui.
C'est un service qu'on pouvait appeler les services test un peu. Enfin, en tout cas, voilà, c'était...
Oui, c'est ça.
Vous avez un one shot d'un an et on verra si ça répond encore aux besoins.
Oui.
Donc, l'afflux qu'il y avait à l'époque des mineurs non accompagnés. Et si vous obtenez des résultats, c'est vous qu'on refinancera.
Voilà.
Le challenge, il est là.
Donc, d'un côté, une dotation. De l'autre côté, une subvention.
Ouais.
Voilà. Donc... ça s'est effectivement fait comme ça.
Ok, et tu es toujours sur ce service, du coup, aujourd'hui ?
Oui.
Ouais. Est-ce que, quelles sont pour toi un peu les difficultés que tu as pu rencontrer sur ce service et puis les moments de satisfaction, de joie, est-ce que tu peux nous en citer quelques-uns de ces moments ?
Bah, tous les jours. Moi, je suis content de venir travailler tous les jours. Je suis devenu chef de service en 2019 avec l'augmentation des financements.
Ok.
Voilà, une équipe qui bouge, hein, qui s'est accrue. Maintenant, il y a une petite quinzaine de personnes. L'accueil de stagiaires, de volontaires service civique, des professionnels qui sont investis. C'est l'avantage de créer aussi son équipe, de recruter une équipe. Voilà, donc moi je me lève tous les matins avec entrain et puis les joies sont quotidiennes sur des dossiers qu'avance, sur des obtention de titre de séjour, mais ça peut être aussi un jeune qui trouve un patron, un jeune qui va mieux physiquement, psychiquement, qui évolue. Enfin voilà, c'est une bataille du quotidien, mais avec une équipe qui est motivée à faire de belles choses. Et puis enfin voilà.
Okay.
Donc il y a pas, je vais pas souligner un moment. Après c'est gratifiant d'aller voir des financeurs et puis que les financeurs saluent le travail effectué par les équipes. Ça c'est toujours des bons moments, on va dire. Et puis effectivement le fait que ça augmente en taille. Mais c'est vrai que nous on a toujours, moi en tout cas j'ai toujours préféré avoir de la qualité à la quantité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune ambition à grossir pour accompagner 150 personnes.
Oui.
C'est si on accompagne, je sais les compétences qu'il y a au sein des services. Et du coup, si on peut déployer cette compétence pour plus de jeunes, c'est bien.
Oui.
Mais en tout cas, on ne le fera pas.
Oui.
On le fera pas s'il n'y a pas. Voilà, exactement.
C'est quoi les moments les plus compliqués à vivre sur ce genre de service ?
Les moments les plus compliqués, c'est toujours les mêmes, hein. C'est quand on accompagne des jeunes et puis on se bat pour trouver des solutions, parce que là c'est pareil, on déploie beaucoup d'énergie pour trouver des solutions. Moi, c'est ce que j'aime dans ce service, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à la barrière du département ou de la situation. Enfin, voilà, on peut se déployer sur le national.
Mm-hmm.
Voilà, s'il faut, on ira chercher la solution.
Oui.
Voilà, donc c'est ce que j'aime beaucoup. Les marges de manœuvre, toujours, hein, pas s'arrêter à ce qu'on, à ce qu'on nous propose, mais aller plus loin. Par contre, des fois, bah, malheureusement, il y a chez nous des obligations de quitter le territoire français. Ça, c'est compliqué, du coup, de pas... Bah, de demander à un jeune de devoir partir du service. Parce que du coup, il y a une... Alors, moi, je dis toujours, quand le jeune, il a un titre, un travail et tout, on n'y est pas pour grand-chose, on n'a fait que l'accompagner. Donc, de la même manière, s'il y a une OQTF, on ne peut pas se sentir responsable, mais quand même, on demande à un jeune de quitter sans rien, voilà, un service, c'est, voilà, sans perspective de régularisation, c'est compliqué.
Ok.
À vivre. Et du coup, c'est compliqué à vivre parce que je sais que l'équipe en souffre aussi, quoi.
Mm. Oui, du coup, c'est évident qu'il y a un impact,
oui,
sur l'équipe et sur la motivation et pas l'engagement, mais en tout cas, ça met un petit coup de fou.
Oui, oh, mince. On a fait tout ça pour ça.
On a fait
tout
ça pour ça, pour se frotter à la réglementation, mais
oui,
parce qu'elle est là, donc c'est peut-être pour ça que tu disais on n'y peut des fois pas grand-chose quand il y a une,
c'est notre limite,
une obligation, ouais, de quitter le territoire français, parce que c'est la loi qui s'impose.
Oui. Alors après, vu, on a du recul aussi par rapport à ça, et je pense que ça fait du bien, ça aussi. On voit que même si c'est le cas, il y a beaucoup d'anciens pensionnaires qui reviennent ici, qui sont passés par des OQTF, etc., et qui ont réussi dans, ouais, leur parcours, par d'autres biais,
okay,
voilà, à obtenir des titres, etc. Donc ça, voilà, ouais, on se dit, bon, même dans ce cas-là...
Même si avec nous, ils ont eu une OQTF, oui, avec nous, il y a peut-être des petites choses qu'on a réussi à leur insuffler et qu'ils ont... puisse, oui, servir à un moment donné, en tout cas.
C'est ça. Mm. Voilà. Mais puis, je me dis, de toute façon, on a eu des situations très, très compliquées à gérer en termes de comportement, etc., de parcours de vie. Si on a pu insuffler un peu de bienveillance, un peu de bien-traitance, et puis dire qu'il y avait un espoir, bon, voilà, je, ouais, me dis que c'est déjà bien.
Quelle philosophie t'essaies d'insuffler, là, dans ton service ?
Ouais, c'est dur comme question, ça. Philosophie.
Mm. Alors, dans ce que tu as dit, en tout cas, moi, je repère quelque chose qui est assez mis en avant dans ton discours, c'est d'essayer, en fait, de s'autoriser, d'essayer tout ce qui est possible, que ce soit pour meubler tout un service que tu reprends avec quatre murs vides, ou dans une situation d'un jeune avec un travailleur social qui l'accompagne, il faut s'autoriser à tout essayer. J'ai l'impression que c'est un peu ça, ce que tu essaies d'insuffler.
Alors oui, ça a été dur dès le début, parce qu'effectivement, les financements sont peu présents. Même s'ils existent, enfin, hein, voilà, on part pas de zéro, mais tous les projets qui ont été menés sur le service, j'ai, je pense, insufflé la culture de, effectivement, on n'a pas de moyens financiers. Mm. Par contre, prenez contact avec les gens, faites des partenariats, allez au devant, proposez. Récupérez, voilà, rien n'est impossible.
Développer des solidarités.
Oui. Et parce que vraiment, je pense que là, lors d'aujourd'hui, avec le recul, on a énormément de partenariats, que ce soit dans la culture, le sport, enfin, voilà, les jeunes peuvent bénéficier de beaucoup de choses sans un franc,
ouais,
un euro.
Ouais.
En tout cas, c'est, ouais, ça, c'est mon passif des 79. mais ouais, oui, je pense que si on veut, on peut beaucoup. Mm. Je dis pas qu'on peut tout le temps, parce, non, que des fois on est, voilà, on est tous confrontés, en fait, aux limites institutionnelles, etc. Mais on peut largement les dépasser quand on a envie de faire. Donc oui, c'est vrai que ça. Merci de l'avoir repéré. Oui, ça, pas beaucoup de moyens. Ça a un peu heurté les esprits, surtout des personnes qui venaient de la protection de l'enfance, etc. Je me souviens au début. La récupération, équiper les chambres, aller demander des choses, c'était pas dans la philosophie des gens quand ils sont arrivés ici de mon équipe.
Ouais.
Et à force de leur dire, voilà, faisons de la communication sur des projets, faisons des choses qui ne coûtent pas beaucoup, voilà. Et maintenant, c'est effectivement rentré dans les mœurs, quoi. Voilà, c'est les gens qui viennent me voir en disant, bah, peut-être que si on met leur logo là, ici, dans ce projet-là, ils vont peut-être nous faire ça gratuit. Bah oui. Voilà, faisons ça.
On va essayer comme ça.
Ouais.
Ok, bon. T'en vois une autre philosophie, toi ?
Non, je pense que c'est ça. Après, je dis toujours, mais après, ça c'est un peu présomptueux, mais je suis content de venir travailler et j'espère que les équipes sont contentes de venir travailler pour ce qu'ils font. Et que du coup, si c'est pas le cas, du coup, que ce soit assez ouvert pour dire, comme je l'ai fait en fait il y a quelques années en arrière, que la porte soit ouverte à faire de la mobilité, que ce soit ici ou ailleurs, mais que voilà, ça se passe comme ça. Parce que c'est des cycles de vie que moi je comprends tout à fait, mais voilà.
C'est important d'aller bien
ouais.
pour travailler avec des personnes qui en ont besoin.
Exactement.
Effectivement.
Oui.
Ok. On arrive sur la fin de notre échange. Est-ce que tu as un avis sur le travail social que tu as connu au démarrage de ta formation et le travail social de maintenant ? Est-ce que tu as vu une évolution ? Est-ce que, ou pas, hein, c'est vraiment ouvert hein, comme question.
Bah alors, ce qui est particulier, c'est que même si j'essaye d'observer ce qui se passe ailleurs, je pense que quand on travaille, on est tous un peu dans des niches. C'est très clanique et du coup la migration bah, c'est beaucoup l'entre-soi aussi, même si on essaye de développer en fait des connexions avec le droit commun, avec d'autres entités, effectivement on est tous un peu à gérer bah, nos obligations du moment, donc c'est compliqué d'avoir une vision globale du social. Moi ce que j'observe, mais c'était le cas déjà à l'époque, il y a beaucoup de mouvements sociaux, etc. Enfin voilà, c'est je pense pour plein de gens compliqué. Alors moi c'est surtout dans mes phases de recrutement que je vois beaucoup dernièrement des travailleurs sociaux en souffrance,
ouais.
Voilà, qui sont au sein d'équipes qui moi je trouve que les financements se sont beaucoup uberisés.
Mm-mm.
On parlait de dotation, de subvention, etc. Voilà, j'ai un autre service voilà, qui traite d'autres problématiques dans les migrations, mais pareil, c'est des subventions, donc en fait c'est difficile de se projeter sur des financements qui sont non pérennes, du coup ça stabilise pas forcément bien les équipes, voilà, donc du coup ça peut être difficile de se sentir en fragilité toujours.
Ouais, c'est insécurisant du coup de savoir si
oui.
L'année prochaine tu vas récupérer
c'est ça
à peu près la même somme pour pouvoir fonctionner.
Alors c'est pour ça, je ne sais pas ce qui se passait avant, je sais que là beaucoup d'appels à projets sont financés à hauteur de 80%, 20% sur un autre mode de financement, enfin voilà, tout est un peu anarchique, mais est-ce que ça existait avant ? Ça je ne peux pas le dire, en tout cas c'est ce que je vois aujourd'hui, et c'est ce qui peut être un peu compliqué pour les équipes ou
ouais,
pour les
sûr.
Responsables de services, etc., de se projeter sur le long terme, ça c'est compliqué, ouais.
Ok, j'ai encore 4 questions.
Oh bah, c'est pas beau, c'est pas la fin.
Non. Si tu avais la fameuse baguette magique que tu as sûrement dû entendre, soit par des personnes te disant « Mais moi, j'aimerais que vous fassiez ça pour moi. » Et toi, tu la réponds « Mais moi, j'ai pas de baguette magique. »
Mais moi, je l'ai, la baguette magique.
Ah, alors qu'est-ce que t'en fais de cette baguette magique ?
Alors, moi, je pense déjà la baguette magique, c'est... Et c'est un peu... c'est facile à dire, mais je pense que déjà beaucoup, depuis 10 ans que je traverse le travail social, mais dans la vie perso ou pro, je pense que déjà si tu prends le temps d'écouter les souffrances, les demandes, je pense que c'est déjà un bon bout de la baguette magique. Parce qu'après, les moyens dont on parle depuis le début, les moyens à déployer, ils sont illimités. Parce qu'on est des humains et que du coup, il y a plein de choses qui existent.
Mmh.
Voilà. Plus ou moins bien. Alors des fois, il faut rentrer dans des cases, etc. Mais des fois, on peut déployer d'autres choses aussi. Et effectivement, plus on monte sur les aspects hiérarchiques, plus on peut proposer des projets qui collent à des choses qui n'existent pas. C'est aussi ça qui est bien. Voilà, moi j'ai pas de baguette magique, je pense des fois qu'il faut voilà, prendre le temps, discuter, évaluer, accepter les échecs pour mieux rebondir, enfin voilà, tout ça fait partie d'un parcours, mais voilà, prenons le temps de nous écouter, mais tu le disais tout à l'heure, hein, c'est vrai, mais ça c'est une déformation professionnelle horrible sur le versant personnel, c'est écoutez-vous.
Oui.
On s'écoute. et on dialogue.
Ouais, bien sûr.
Et des fois, j'ai l'impression que ce que je suis en train de faire là un peu, on s'écoute parler.
Ouais, possible. Si tu devais faire autre chose, tu ferais quoi, là, actuellement ?
Rien du tout.
Rien du tout.
Non, je suis très heureux dans ce que je fais.
Ok, alors, pour faire du lien entre les invités sur ce podcast, j'ai imaginé, mais on m'a soufflé l'idée. Après, j'arrêterai de dire hein, qu'on m'a soufflé l'idée, je m'approprierai le truc. Parce qu'au bout du troisième entretien, du coup, j'ai
c'est
le droit de dire que c'est moi. Mon dernier invité a posé une question au prochain invité que tu es. Je vais te la poser et après, ça sera à ton tour de pouvoir poser une question au prochain invité. Voilà, je ne sais pas qui c'est. Pas encore, en tout cas. Donc voilà, c'est une question plutôt globale et ouverte. Donc, la question du précédent invité, c'est dans le social, est-ce qu'on est des entreprises à but non lucratif ? Est-ce qu'en tout cas, l'idée, c'était de se dire, est-ce qu'on doit fonctionner comme une entreprise ? Est-ce qu'on est une entreprise ? Voilà, avoir un peu un avis sur ça.
Je l'évoquais tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des financeurs. Moi, je pense qu'il faut... Pareil, mais je dis toujours la même chose, ou c'est horrible, en fait, j'ai qu'une phrase. Mais c'est pareil, ce sont les marges de manœuvre, c'est-à-dire qu'on prend en compte les paramètres. Les paramètres qui existent, ce sont les financements. Les financements sont souvent non pérennes, on doit les rendre lisibles, qui ait du sens dans les actions qu'on mène. Et oui, je pense que effectivement les associations, les services doivent être effectivement menés, ou en tout cas c'est l'image qu'on doit montrer aux financeurs. Par contre, ce qu'on fait à l'intérieur, après, ça nous concerne. Mais effectivement, il y a une nécessité d'avoir un résultat qui doit être traduit, parce que le champ du social, on doit pouvoir avoir des critères, des paramètres, etc. C'est, voilà. En tout cas, c'est ce qui est demandé maintenant.
Oui.
Donc, il ne faut pas, je pense... alors, il y a sans doute des instances sur lesquelles on peut lutter contre ce genre de choses, hein, si c'est l'idéologie. Mais quand on veut accompagner des gens le mieux possible, respectons ces choses-là. Effectivement, il y a des budgets à tenir, il faut montrer patte blanche sur plein de choses. Et souvent, en plus, ce sont des fonds publics. Donc, c'est normal qu'il y ait des critères de contrôle, etc. Enfin, voilà, pour faire fonctionner une société. Et puis après, une fois qu'on a ces critères-là, fonctionnons effectivement comme une entreprise non lucrative. Et puis après, ce qu'on fait à l'intérieur, par contre, on doit retrouver l'essor du social, quoi. Enfin voilà, on fait dans l'humain, dans le social, c'est pas un vain mot quoi. Une entreprise qui privée a des objectifs de production, de productivité, etc. qui peut-être peut faire fi de l'humain, je sais pas. Ça doit arriver souvent.
Peut-être.
Donc voilà, mais je pense que nous on peut pas se départir de ça, même si on se dit voilà, il faut coller à l'image d'une entreprise.
Ok. Merci pour ta réponse. Je te laisse poser la prochaine question à l'invité.
Un truc classique. Pourquoi vous faites ce métier ?
Ok, c'est une bonne question. Après, c'est la question qu'on nous pose très souvent quand on rentre en formation. Pourquoi vous voulez faire ça ? Et la plupart du temps, on n'a pas la réponse.
Ça devient un truc un peu classique, mais je pense qu'il faut être animé de quelque chose de précis.
Ok, ouais. Merci Julien pour cet échange.
Merci à toi.
Très enrichissant, et pour ton parcours et ton engagement au sein de ton service actuel, mais de tes services avant aussi.
Merci beaucoup.
À bientôt. What you defend is a gift in your hand. You just
just have to be proud. Say it clear and loud, because what you defend is a gift in your hand. Just have to be proud, say it clear and loud. Invisible voice for unstoppable choice.